Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici donc à nouveau ensemble pour la suite et la fin du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. L'abbé Pierre était enterré depuis une semaine et Mars depuis un jour. Ainsi qu'Abel et son fils. C'était comme si la disparition de l'abbé avait sonné le grand chamboulement de la vie de Gus. Il fallait bien reconnaître que tant que l'abbé était vivant, les choses se passaient plutôt bien pour lui. Curieusement, c'était au moment où Gus avait décidé de se laisser aller que la vie lui jouait des tours pendables dont il ne mesurait pas les conséquences à part la bombe à retardement qui venait de lui exploser à la figure sans qu'il s'y attende. Après tout, Gus pensait qu'il aurait dû finir le travail. Aller au bout de cette logique désastreuse et tirer un coup de fusil sur ce type qui l'avait pris pour Abel, puis s'en aller, flinguer paradis. Il ne savait pas où le mènerait cette réflexion, cette idée de rajouter deux morts à toutes les autres, même si c'était juste une idée, et qu'il ne se considérait pas comme un meurtrier. Il était à environ 500 mètres de la ferme d'Abel, seul dans la forêt. Son corps était une machine qui ne fonctionnait pas de façon habituelle, pris qu'il était par ce qui se passait à l'intérieur. Et se foutant pas mal du reste, la neige, le froid, enfin, tout ce qui l'entourait sans le pénétrer. Il n'était pas celui qu'il avait cru être pendant plus de 50 ans, et il aurait mille fois préféré finir sa vie dans l'ignorance. Ça lui aurait rudement facilité la mort de ne jamais connaître le secret de sa naissance. Il s'en serait tenu à ce qu'il avait vécu, acceptant de continuer à ne pas comprendre pourquoi ses parents l'avaient autant haï, alors que maintenant qu'il avait l'explication, il se retrouvait devant une montagne de regrets qu'une vie supplémentaire ne suffirait pas à escalader. Que se passerait-il quand il réaliserait vraiment que les deux cadavres allongés dans la maison d'Abel étaient ceux de son propre père et de son demi-frère? La seule chose qu'il sentait, c'était qu'il était de plus en plus fébrile. Il se leva pour marcher un peu, pensant que ça l'aiderait à remettre les choses dans l'ordre, pour voir ce qu'il pouvait en faire, les plus importantes devant, et ainsi de suite. Il y avait ce satané soleil dans le ciel, quelque part au-dessus, qui ne voulait toujours pas se montrer. Gus n'apercevait même pas la cime des arbres, avalés par les nuages, et il n'était pas persuadé d'être encore là quand le ciel les vomirait dans sa grande bonté. Il avait la sensation que ses bras et ses jambes pendaient d'un corps qui n'était pas le sien, qu'on lui avait volé son véritable corps. Un court instant, il envisagea de rentrer chez lui et de s'enfermer pour tenter d'oublier les événements passés et de reprendre le fil de sa vie d'avant. Mais ce n'était plus possible. Le fil était coupé. Au loin, il sembla entendre des aboiements qui ne pouvaient pas être ceux de Mars et des cris aussi qui ne pouvaient pas être ceux d'Abel non plus. son imagination sans doute. Gus se dirigea vers la combe, dans un crépuscule privé d'horizon, sous d'invisibles planètes éparpillées dans le vaste univers, dans le cirque parfait que constituait ce monde et sous des bardeaux de lumière astrale. Tel un anachorète courbé sur sa pénitence, il abandonnait un sillage de traces dans la neige, ressemblant à la mue d'un serpent. Quelque part au-dessus de lui, de grands freux se déplaçaient, saupoudrant le ciel liquide de leurs cris et balayant le brouillard épais de leurs rémiges tendues, sans qu'il soit possible d'en apercevoir un seul. Gus marchait dans ce désert blanc, entouré de mirages sonores et de silhouettes ligneuses balisant sa route, poussant sur ses jambes arquées, afin d'extirper de la gangue neigeuse une chaussure après l'autre. La forêt tout autour. Deux canons juxtaposés dépassaient de son épaule droite, lisses et brillants comme des cannes de bambou, et la crosse en noyer cognait sur le quadriceps de sa cuisse droite à intervalles réguliers, réveillant une ancienne douleur bénie. Il savait qu'il ne ressortirait probablement jamais de cette forêt, qu'il allait disparaître dans ce pandémonium immaculé, pendant qu'au loin un monstre se mettrait en chasse, suivant sa piste aussi nette que le lit d'une rivière. Ralentissant son pas, il se souvint de l'enchaînement d'événements qui l'avait conduit jusqu'ici, s'immobilisa et ouvrit ses bras comme s'il attendait d'être crucifié sur place. En cet instant, son ultime projet était d'épouser le ciel, après avoir rompu ses fiançailles avec cette nature maquillée, cette terre qui, dit-on, finit toujours par se jeter dans une mer. Et ces mots qui lui revinrent en ligne droite du passé. « Tu sais quoi, Gus ? Le diable, il habite au paradis. Le diable, il habite au paradis. Le diable, au paradis, le diable, le paradis. » Le soir allait s'éterniser avant d'abdiquer et de se laisser engloutir par la nuit. Gus était décidé à rester dans cette nuit pour mettre le point final à ce qu'il venait de vivre. Il ne craindrait plus l'obscurité, le froid, la solitude, parce qu'il était lui-même devenu la nuit, le silence, la somme de tous les jours passés, et que le futur n'existerait plus jamais. Quoi qu'il puisse se passer désormais, sa souffrance demeurerait intolérable. Même si personne ne saurait jamais ce qui s'était passé dans la ferme d'Abel, lui le savait. Et vivre avec serait bien plus lourd à porter que le corps de sa mère, découvert suspendu au-dessus de celui de son père. Gus fit glisser la bride du fusil, prit l'arme en main et la regarda longuement. Son seul héritage, en quelque sorte. Il caressa le bois de la crosse, puis les canons qu'Abel avait pris soin de graisser. C'était lui, son ami, ce fusil, son seul ami, son véritable ami. Cet objet. S'il n'avait pas oublié d'emporter une boîte de cartouches de chez Abel, ça aurait été certainement cet ami-là. Voici que la présence du Seigneur de loin se fait connaître. Ardente est sa colère, pesante sa menace et dévorant le feu qui émane de lui. Qui aurait pu imaginer que Dieu et le diable se soient incarnés en un évangéliste, celui-là même qui avait tenu le crachoir à Gus moins de 2 heures auparavant et qui l'avait pris pour Abel. Avoir la mine du type et la tirade qu'il venait de lui servir en tendant ses bras en avant à la manière d'un prêcheur, c'était plus la peine de jouer la comédie. Le suceur de Bible l'avait suivi et savait forcément qui il était en réalité. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» demanda Gus. « Rebonjour, monsieur Targaud. »« C'est pas utile de me narguer, je peux vous expliquer. »« Qui vous demande des explications ?»« J'ai plus aucune raison de vous mentir, alors je crois qu'il est temps que je vous raconte une drôle d'histoire, même s'il est difficile à croire. Taisez-vous, je vous prie, monsieur Targaud. »«
Ne troublez pas le silence de la forêt. Votre voix est une offense à cette merveilleuse nature et au Seigneur Tout-Puissant. » Le type dit ces mots sur un ton très calme, et ça les rendait encore plus effrayants.
« C'est quoi ce cinéma que vous me servez? Qu'est-ce que vous attendez de moi ?»«
Rien, monsieur Targaud. Absolument rien. Plus rien du tout. »
And left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this. Trying to break me, and I love to live so pleasantly, live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime.
My girlfriend's run up with my car and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Et après la musique, nous revenons à la dernière partie et donc à la fin du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Le suceur de Bible plongea une main dans une de ses poches et en sortit un objet coincé entre deux doigts, qu'il se mit à agiter sous le nez de Gus, comme s'il s'agissait d'une relique promenée un jour d'ostentation. Gus reconnut immédiatement la clé qui pendait au bout du porte-clés, celle qu'on lui avait dérobée. « Savez-vous ce que je tiens là, monsieur Targaud ?»«
Bon, je le sais comme vous, c'est une clé. » »«
Et savez-vous ce qu'ouvre cette clé ?»«
Ah, pas les portes du paradis, j'imagine. Vous brûlez. »
« Je crois savoir où vous l'avez trouvé, » dit Gus, qui changea la position de ses mains sur le fusil à cause de la sueur.
« Alors c'est une chose que nous avons en commun. »«
Et moi, je suis pas certain que vous sachiez où je l'ai découverte, cette foutue clé, avant qu'elle pende à un clou dans ma maison. »«
À qui d'autre qu'à son propriétaire auriez-vous pu la prendre ?»
Vous vous trompez sur toute la ligne, je ne sais pas de quoi vous voulez parler.
Quelqu'un venu vous rendre visite il n'y a pas longtemps.
C'est en pleine forêt, dans la neige, que j'ai trouvé cette clé.
Vous mentez mal, monsieur Targaud.
J'ai aucune raison de mentir maintenant, et puis vous allez arrêter avec vos cachotteries et me dire enfin à quoi sert cette clé et à qui elle appartient, on gagnera du temps.
Vous avez raison, gagnons du temps.
Ce n'est plus la peine de nier. Nous avons découvert une voiture et il se trouve que la clé que je tiens ouvre précisément cette voiture. Et en quoi cela me concernerait ?
La voiture en question appartenait à un de nos membres, une jeune femme, dont nous avons perdu la trace depuis une semaine.
Bon, je vois toujours pas.
Et si je vous disais que la voiture se trouvait dissimulée dans un moulin abandonné juste au-dessous de votre ferme, ça vous aiderait à mieux voir.
Vous voulez parler du moulin du vieux Joseph ?
Gus se remémora être passé à quelques mètres du bâtiment dans lequel devait se trouver la bagnole.
Le moulin du vieux Joseph, sûrement. En tout cas, l'endroit est bien pratique pour cacher quelque chose en attendant de s'en débarrasser définitivement.
Moi, j'ai rien planqué là-bas, j'ai jamais conduit une voiture de ma vie.
Ça doit pas être bien compliqué pour quelqu'un qui a l'habitude de se servir d'un tracteur.
Je saurais même pas la démarrer. « Votre foutue bagnole. »«
Dois-je en conclure que c'est par le plus grand des hasards que cette clé a atterri chez vous ?»«
Je vous ai déjà dit où je l'ai trouvée, il n'y a pas le moindre hasard là-dedans. »
Au moment où il terminait sa phrase, Gus pensa à Thomas. L'évidence. C'était forcément lui qui avait perdu la clé en se battant avec Mars. La disparition de la jeune femme coïncidait avec le jour où Gus était parti chasser les grives, le jour où il avait entendu les coups de feu et les cris et vu les traces de sang dans la neige. L'histoire du renard, Abel avait dû l'inventer de toutes pièces. Voilà ce qui s'était sans doute passé. La visite de la jeune prosélyte avait mal tourné à cause du fils d'Abel qui avait probablement fait une de ses crises.
Abel n'avait pas pu intervenir à temps cette fois.
Mais comment raconter ça à l'évangéliste sans parler des deux cadavres couchés sur le plancher dans la maison ?
Gus repoussa momentanément les visions de cauchemar qui s'accumulaient dans sa tête.
Ce fut peine perdue car le suceur de Bible fit voler ses efforts en éclats.
Appelons cela un mystère.
Il semblerait qu'il y en a même un deuxième, qui se trouve juste derrière votre grange.
Derrière ma grange ?
Une tombe, fraîchement creusée.
Et en vérité, à part un corps, je ne vois pas ce qu'une tombe pourrait receler.
Bah putain, il n'y a pas de mystère là-dedans, que de merde en branche, c'est mon chien qui est enterré dans ce trou.
Évidemment, votre chien.
Bah vous pouvez aller vérifier si le cœur vous en dit.
Ce ne sera pas nécessaire. Et moi, je crois qu'il faut tirer cette affaire au clair sans attendre, et je ne vous laisse pas le choix du contraire. » En disant ça, Gus pointa son fusil en direction de l'évangéliste. Il était le seul à savoir qu'il n'était pas chargé. « Vous me menacez ?»« Si je vous permets de vous approcher de la vérité, considérez que c'est un service que je vous rends. » « Mais ce n'est pas ainsi que les choses doivent se dérouler, » dit alors l'évangéliste, visiblement perturbé, alors que jusqu'à présent il semblait plutôt sûr de son fait. « Je ne suis pas certain que vous soyez en mesure d'en décider. Nul ne peut imposer sa loi à un serviteur de Dieu. M'est avis que vous allez devoir reconsidérer votre façon de voir les choses. Vous tireriez sur moi ? Et vous ? Vous prendriez le risque ? Que je réponde à votre question ? Après tout, pourquoi n'irions-nous pas vérifier ensemble ce qui se trouve dans cette tombe ? Sage décision. Allons-y, vous connaissez le chemin. Les deux hommes se mirent en route. Gus marchait derrière l'évangéliste en le tenant en joue. L'autre semblait calme, presque serein désormais, comme si la peur qu'aurait dû susciter sa position ne l'effleurait même pas. Ils traversèrent une zone partiellement défrichée. Gus manqua chuter quand son pied droit buta sur une souche de repousse. L'évangéliste se retourna, ne tenta rien. Un sourire s'afficha sur son visage et il reprit sa marche en accélérant le pas. Un vent sec les accueillit au sortir de la forêt, des rafales glacées qui frappaient leur visage comme des gifles. Gus respirait de plus en plus bruyamment, cherchant son souffle. Le suceur de Bible se retourna de nouveau, découvrant un Gus exténué qui progressait avec peine. « Ce serait pas une bonne idée que de tenter le diable, » lança Gus en relevant les canons du fusil. « Ce n'est pas mon intention, mais nous pourrions nous reposer un peu, vous avez l'air épuisé. Vous vous occupez pas de ma fatigue et continuez à marcher gentiment, comme vous voudrez. C'est ça, comme je veux. Dites-moi, si ce que vous dites est vrai, alors... « Où pensez-vous que notre sœur se trouve ?»« J'ai ma petite idée sur le sujet, mais ce n'est pas une histoire que je veux vous raconter maintenant. Le temps viendra, vous aurez votre explication et vous verrez à quel point vous vous êtes trompé. » Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, Gus fut surpris de ne pas apercevoir la voiture de l'évangéliste. Il se dit qu'il avait dû la laisser en contrebas pour se rendre discrètement au doge, mais ne posa pas la question. Le sang frappait régulièrement contre ses tempes. Le vent poursuivait son concert en s'engouffrant sous les bardeaux de la grange, glissant sur le silence comme une araignée d'eau sur une mare étale. Il n'y avait plus un seul animal traînant dans les parages. Pas un bruit de chaîne, pas un meuglement, ni le moindre chant d'oiseau. Plus rien que des fantômes voyageant entre les murs, pas décidés à foutre le camp. « Vous trouverez une pelle dans la remise, » fit Gus en désignant la pentille sur laquelle il rangeait ses outils. « Je dois comprendre que c'est moi qui vais devoir creuser. »« Exactement. Nous irions pourtant plus vite à deux. »« Me prenez pas pour un con, vous aurez pas besoin de pioche. »« La terre a pas plus gelé bien profond. » Visiblement, le suceur de Bible n'avait pas l'habitude des travaux manuels, à la manière dont il tenait le manche de sa pelle en sortant de la remise. Les deux hommes longèrent la grange et la contournèrent avant de déboucher dans le petit bois où Gus avait enterré Mars. L'évangéliste se dirigea tout droit vers la tombe. « Il semblerait que j'ai pas besoin de vous montrer l'endroit où vous devez piocher. » L'évangéliste sourit un peu à la manière de son Christ sur les brochures, puis se mit à creuser, sans qu'en effet Gus n'ait à lui indiquer la position de la tombe. Il se mit rapidement à en baver, étant donné qu'il tenait le manche trop loin du tranchant de la pelle. Gus ne lui donna pas de conseil, pensant qu'il ne devait accepter que ceux qui venaient de bien plus haut. Quand il eut à peine retiré 10 centimètres de terre, le suceur de Bible se releva et s'appuya sur son outil pour souffler un moment. Gus se tenait à une distance respectable, qui le préservait d'un éventuel mauvais coup. Il sortit son paquet de gitane de sa poche, à l'aide d'une seule main, attrapa une cigarette entre ses dents et l'alluma avec son briquet. La fumée s'éternisa dans sa bouche avant de tamponner sa poitrine, puis il dit au milieu d'un nuage bleuté : « Vous êtes déjà fatigué ?
J'ai pas l'habitude. Vous m'étonnez. J'imagine qu'il est plus facile de tourner les pages des évangiles. C'est autre chose. Là, vous prêchez un converti.
Vous ne voulez vraiment pas m'aider ? Demanda le suceur de Bible en tendant le manche de l'appel à Gus.
Il se trouve que j'ai pas plus confiance en vous maintenant que tout à l'heure. Je vous promets de ne rien tenter. Vous pourriez le jurer sur votre Dieu que je lâcherai pas mon fusil pour autant.
Puis le type se figea à la manière d'un apôtre découvrant le tombeau du Christ vide, comme s'il se retrouvait face à un miracle appelé de ses voeux.
Gus lui demanda de se remettre à creuser pour en finir au plus vite. À peine eut-il terminé sa phrase qu'il entendit un claquement sec dont il n'identifia pas la provenance. Sur le moment, il ne comprit pas ce qui se passait. Il voyait toujours le suceur de Bible occupé à le regarder fixement, sans bouger, et apparemment plus décidé à creuser.
Les facultés visuelles de Gus s'appauvrissaient de seconde en seconde sans qu'il en saisisse la cause. Ses jambes se mirent à trembler, à devenir cotonneuses, et il finit par ne plus les sentir du tout. Une force semblait le tirer vers le sol, et il s'agenouilla, en tenant toujours son arme entre ses mains. Une drôle d'odeur flottait dans l'air, comme du métal froid s'échappant de son corps, le même genre d'effluve qu'il avait reniflé en regardant crever le Thomas, une odeur de sang, superposée à toute celle de la nature environnante, l'odeur de son propre sang qui commençait à poinçonner la neige au-dessous de lui avec régularité. Aucune douleur n'accompagnait les gouttes sombres. Et pourtant la vie que sa mère lui avait donnée, sa seule offrande, était en train de le quitter tout doucement, avec une étonnante fluidité.
Gus avait conscience de sortir de la vie, et il en ressentait un soulagement, une sorte de bénédiction qu'il n'aurait jamais osé aller chercher seul.
En relevant les yeux, il aperçut alors d'autres formes autour de lui. D'abord Jean Paradis, accompagné par d'autres suceurs de Bible, à n'en pas douter, pareil à deux grands échassiers, se balançant d'une patte sur l'autre, gênés dans leur progression par l'épaisseur de la neige.
Gus voulut diriger son fusil vers Paradis, mais la force lui manqua. Sa vision devint de plus en plus floue, jusqu'à ce que la nuit s'achemine partout entre les arbres et s'engouffre dans son corps comme dans un torrent avalé par la terre.
Il vit Mars s'amener en courant, et il lui sourit, incrédule.
Le chien posa ses pattes avant sur les genoux de son maître retrouvé, et se mit à lui lécher frénétiquement le visage. Au début, Gus ne sentit pas la langue râpeuse sur sa peau. Puis le contact se fit de plus en plus prégnant. Les évangélistes et Paradis avaient définitivement disparu. C'était l'abbé Pierre, en personne, qui se tenait désormais debout devant Gus, drapé dans sa cape noire avec son béret noir vissé sur la tête, et qui l'invitait à le suivre avec son regard malicieux.
Alors, Gus se leva sans effort, marcha en direction de la baie, et le trio se mit en route pour s'en aller grossir le ciel.
Épilogue. La vieille dame a 78 ans. Elle n'aime pas se promener dans le passé avec les autres vieux du village parce que le souvenir finisse toujours par se mélanger avec les siens jusqu'à trahir sa propre mémoire. Elle passe ses journées à observer le monde qui se restreint. Elle a tricoté suffisamment de gilets pour être tranquille jusqu'à la fin de sa vie et même au-delà, si jamais il fait froid là-haut. Elle n'est plus du tout à son avantage désormais. C'était pourtant un joli brin de fille il y a 60 ans en arrière. Il est difficile d'imaginer qu'avant le désastre, elle avait une peau toute lisse et des cheveux blonds et bouclés. Mais personne n'est là pour entendre ce qu'elle était, ni même l'imaginer. Elle n'a jamais eu d'enfant à elle. Elle n'a pas eu le temps, pas non plus trouvé l'homme dans sa jeunesse qui lui aurait donné envie d'en faire, plutôt du genre déluré, une fille facile, comme on dit. Bien qu'à l'époque,
elle se fût considérée comme une femme libre. Son corps réclamait simplement le plaisir, et elle était alors loin de se douter qu'à fréquenter beaucoup d'hommes, il arriverait un temps où elle ne serait plus crédible en tant que mère potentielle, comme si, à un moment donné, elle n'avait plus été fiable. La vieille dame regarde le môme s'avancer sur la route. Il porte une besace en toile et ses vêtements sont aussi ternes que les ailes d'un papillon de nuit. Il vient d'engranger les sarcasmes des autres gamins à l'école. Son regard ne se projette pas, rivé à la route bosselée, à ses chaussures qui lui blessent les talons. En le voyant ainsi, une peine immense la recouvre comme une nuit. Ça crie en elle de le voir malheureux comme les pierres, traînant sa carcasse maigrichonne pour rejoindre une famille qui n'en sera jamais une. Une famille soudée par une ferme et à tout le travail nécessaire pour la maintenir à flot, parce que sans ça, il n'y aurait rien eu de plus que des gens traçant leur route chacun de leur côté. La vieille dame voit tout cela, sait tout cela. Elle l'imagine devenu homme, ce qu'elle ne verra pas. La terre l'appelle. Elle sait qu'il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Elle n'a pas peur. Ça fait longtemps qu'elle n'a plus peur. Elle a évité pas mal d'écueils à sa façon, comme ces barrières que la plupart des gens se fabriquent pour faire contrepoids à la haine absolue qu'ils ont en eux. C'est ce qu'elle pense en croisant une dernière fois le regard de Gus. Imaginant que ses yeux lui disent merci pour le quignon de pain et le lait, et aussi pour le sourire qu'elle lui offre. Elle a conscience que ce sont des idées de vieille femme, mais Dieu, que ça lui fait du bien de les avoir. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon, et vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Nous nous retrouverons demain pour une autre lecture. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.